Première partie. Le premier âge. Un. De Tuor et de sa venue à Gondolin. Rian, femme de Uor, demeurait avec les gens de la maison de Hador. Mais lorsque la rumeur des Nirnaeth Arnoediad parvint aux Dorlomin, et qu'elle ne put cependant recueillir la moindre nouvelle de son seigneur, tout est perdu, elle s'en fut errée seule par les terres sauvages. Et en ces lieux, elle aurait péri assurément si les elfes gris ne l'eussent secourue. Car une colonie de ce peuple s'était établie dans les montagnes à l'ouest du lac de Mithrim. Et c'est là qu'ils la conduisirent, et elle y accoucha d'un fils avant que s'achevât l'année de la lamentation. Et Rian dit aux elfes qu'il soit nommé Tuor, car tel est le nom qu'a choisi son père avant que la guerre se vienne mettre entre nous. Et je vous supplie de le nourrir et de le tenir caché sous votre garde, car je prévois qu'il sera source de grands bienfaits pour les elfes et pour les hommes. Quant à moi, il me faut partir à la recherche de Uor, mon seigneur. Lors, les elfes eurent grand pitié d'elle, et un nommé Anael, seul rescapé des Nirnaeth parmi tous ceux de ces gens qui étaient partis guerroyer, lui dit « Hélas, dame, on sait à présent que Uor est tombé aux côtés de Urin, son frère, et il gît, à ce que je crois, parmi les tués au combat, dans le grand tertre que les orques ont érigé sur le champ de bataille. » Or donc, Rian se leva et quitta les demeures des elfes, et elle traversa tout le pays du Mithrim, et à la longue, atteignit le Aod en Degin dans la dévastation d'Anfaoglith, et là se coucha à terre et mourut. Mais les elfes prirent grand soin du jeune fils de Uor, et Tuor grandit parmi eux. Et il était beau de visage et blond de cheveux, à l'image de ceux de son lignage paternel, et il devint robuste et de haute taille et plein de vaillance. Et élevé par les elfes, il possédait savoir et savoir-faire tout autant que les princes des Edain avant que la ruine s'abatte sur le nord. Mais les années passant, la vie des premiers habitants du Ithlum, de ceux-là elfes ou hommes qui étaient demeurés sur place, se fit toujours plus dure et plus périlleuse. Car ainsi qu'il est narré ailleurs, Morgoth rompit ses engagements envers les Orientais qu'il avait servis, et il les grugea des riches terres du Beleriand qu'il convoitait, et refoula ses gens malfaisants au Ithlum, leur ordonnant de s'y établir. Et bien qu'ils n'eussent plus l'or d'amour pour Morgoth, ils le servaient toujours par peur et haïssaient tout le peuple des elfes. Et ils tenaient en souverain mépris les survivants de la maison de Hador, des vieillards, des femmes et des enfants pour la plupart. Et ils les opprimaient, contraignant leurs femmes à les prendre pour époux. Ils s'accaparaient leurs terres et leurs possessions et réduisaient leurs enfants en servitude. Vinrent alors les orques, qui coururent librement le pays, pourchassant les quelques elfes restants jusqu'à leur refuge des montagnes et emmenant de nombreux captifs peinés dans les mines d'Angband comme esclaves de Morgoth. C'est pourquoi Anael avait conduit son petit peuple dans les cavernes d'Androth, et là, ils avaient mené une existence rude et vigilante, et cela jusqu'à ce que Tuor atteigne l'âge de 16 ans et qu'il devienne vigoureux et capable de manier les armes des elfes gris, la hache et l'arc. Et son cœur s'enflammait au récit des malheurs de son peuple, et il languissait de partir en campagne et de venger les siens des orques et des orientais. Mais Anael le lui interdisait. « Fort loin d'ici, ce me semble, t'attend ton destin, Tuor, fils de Uor, » dit-il, « et cette terre ne sera pas délivrée de l'ombre de Morgoth tant que le Thangorodrim lui-même n'aura pas été jeté bas. Aussi sommes-nous finalement résolus de l'abandonner et de faire route vers le sud. Et quant à toi, tu viendras avec nous. » Mais comment échapperons-nous aux raids de nos ennemis ? Demanda Tuor. Car des gens si nombreux cheminant de concert attireront l'attention assurément.
Nous ne traverserons pas le pays à découvert, dit Anael. Et si la chance nous favorise, nous parviendrons jusqu'au passage secret que nous nommons Anon Ingelid, la porte des Noldor, car elle fut aménagée, grâce à l'adresse de ce peuple, il y a bien des années, au temps de Turgon. À ce nom, Tuor s'émut sans qu'il sût pourquoi, et il questionna Anael à propos de Turgon. Il est l'un des fils de Fingolfin, dit Anael, et depuis la chute de Fingon, il est reconnu comme le grand roi des Noldor. Car il vit encore, le plus redouté des adversaires de Morgoth, et il a échappé au désastre des Nirnaeth lorsque Urin du Dorlomine et Uor, ton père, tinrent derrière lui les passes du Sirion. Alors j'irai trouver Turgon, dit Tuor, car en souvenir de mon père, il m'accordera certainement son aide. Cela tu ne le peux, dit Anael, car sa citadelle est cachée aux yeux des elfes et des hommes, et nous ignorons où elle dresse ses murailles. Parmi les Noldor, certains savent peut-être le chemin pour s'y rendre, mais ils n'en souffleront mot à personne. Cependant, si tu veux converser avec eux, viens donc avec moi, comme je t'y convie. Car dans les lointains havres du sud, il se pourrait que tu rencontres des voyageurs en provenance du royaume caché. Et il advint ainsi que les elfes abandonnèrent les cavernes d'Andoroth, et Tuor s'en alla avec eux. Mais leurs ennemis surveillaient leur demeure, et bientôt ils s'avisèrent de leur départ. À peine avaient-ils quitté les collines pour pénétrer en plaine, qu'ils subirent l'assaut d'un corps nombreux d'orques et d'orientais. Et ils se démandèrent et s'enfuirent au loin à la faveur de la nuit tombante. Cependant le feu du combat avait embrasé le cœur de Tuor, et il se refusa à fuir. Mais tout enfant qu'il fût, il mania la hache comme l'avait fait son père avant lui. Et longtemps il tint pied et tua beaucoup de ceux qui l'assaillaient. Mais en fin de compte, il se trouva débordé et il fut fait prisonnier et conduit devant Lorgan l'Orientais. Or, on reconnaissait ce Lorgan pour chef des Orientais et il prétendait gouverner tout le Dorlomine comme le fief de Morgoth. Et il fit de Tuor son esclave. Dure et amère fut pour Lor la vie de Tuor, car Lorgan se plaisait à le traiter d'autant rudement qu'il était du lignage des précédents seigneurs et s'ingéniait tant qu'il pouvait à briser la fierté de la maison de Hador. Mais Tuor conçut la voie de la sagesse et endura toutes les peines et tous les sarcasmes avec prudence et patience. De sorte qu'avec le temps, son sort fut quelque peu adouci, du moins ne souffrit-il jamais de la faim comme nombre des misérables esclaves de Lorgan. Car il était fort et adroit, et Lorgan nourrissait bien ses bêtes de somme lorsqu'elles étaient jeunes et aptes au travail. Mais après 3 années de servitude, Tuor vit enfin une chance d'évasion. Il avait quasiment atteint sa pleine taille, et il était plus grand et plus rapide qu'aucun des Orientais. Et comme on l'avait envoyé en forêt, avec d'autres esclaves, à la corvée de bois, il bondit soudain sur ses gardiens, les abattit avec une hache et s'enfuit dans les collines. Les Orientais le traquèrent avec des chiens, mais sans succès, car presque tous les limiers de Lorgan étaient ses amis et dès qu'il l'apercevait, se faisait caressant et à son commandement s'en retournait au logis. Ainsi Tuor revint-il finalement aux cavernes d'Androth, où il vécut seul. Et 4 ans durant, il vécut en hors-la-loi, inébranlable et solitaire, au pays de ses pères. Et son nom devint redoutable, car souvent il partait en campagne et tuait nombre des Orientais qu'il surprenait. Or donc sa tête fut mise à très haut prix, mais ses ennemis n'osaient le traquer jusqu'à son repère, même en force, car il craignait le peuple des elfes et évitait les cavernes où ils avaient séjourné. On dit cependant que les expéditions de Tuor n'avaient pas la vengeance pour objet, mais bien plutôt qu'il recherchait sans trêve la porte des Noldor dont Anael avait parlé. Et il ne la trouva point, car il ne savait où chercher, et les quelques rares elfes qui s'étaient attardés dans les montagnes n'en avaient jamais entendu parler. Or, Tuor savait que si la fortune lui souriait encore, les jours d'un hors-la-loi sont comptés, et vont toujours s'amenuisant, et l'espoir pareillement. Et il n'était pas non plus disposé à vivre toujours ainsi, en sauvage dans ces collines désolées. Et son cœur l'incitait sans relâche aux actions d'éclat. En cela, dit-on, se manifestait la toute-puissance d'Ulmo. Car il recueillait les nouvelles de ce qui advenait en Beleriand, et chaque rivière qui arrosait la terre du milieu pour se jeter dans la grande mer lui était une messagère, tant allant que venant. Et Ulmo était resté en bonne amitié, comme par le passé, avec Círdan et avec les charpentiers de Nef aux bouches du Sirion. Et en ce temps-là, il veillait plus que jamais aux destinées de la maison de Hador, car en ses plus profonds desseins, il les appelait à tenir un grand rôle dans ses plans pour venir en aide aux exilés. Et il n'ignorait rien des épreuves de Tuor, car Anaël et nombre des siens avaient, en effet, réussi à fuir le Dorlomin et étaient parvenus finalement auprès de Kildan, dans le sud lointain. Or donc, un jour du début de l'année 23e depuis les Nirnaeth, Tuor était assis près d'une fontaine qui sourcillait à l'entrée de la caverne où il vivait. Et voilà que, portant ses regards à l'ouest, vers le soleil qui se couchait dans les nuées, il décida subitement en son cœur qu'il cesserait d'attendre, mais se lèverait et partirait. « Je m'en vais à présent quitter le morne pays de mes parents disparus, » s'écria-t-il, « et j'irai en quête de mon destin. Mais vers où tourner mes pas? Longtemps ai-je cherché la porte et ne l'ai point trouvée. » Alors il prit sa harpe qu'il portait toujours avec lui, étant habile à toucher les cordes et insoucieux du péril qu'il y avait à élever sa voix pure dans ses solitudes, et il entonna un chant des elfes du Nord destiné à mailler les cœurs. Et à mesure qu'il chantait, la source à ses pieds se mit à bouillonner avec un grand flux d'eau, et elle déborda, et un ruisseau dévala avec fracas la pente rocailleuse devant lui. Et Tuor y vit un signe, et aussitôt se leva et suivit le fil de l'eau. Ainsi descendit-il des hautes collines du Mithrim et gagna-t-il la plaine septentrionale du Dorlomin. Et le ruisseau s'enflait toujours tandis qu'il suivait son cours vers l'ouest. Et après 3 jours, il vint à distinguer les longues crêtes grises des Ered Lomin, qui, dans ces régions, se déployaient au nord et au sud, défendant l'accès aux lointaines terres des rivages de l'ouest. Jamais, lors de ses nombreuses errances, Tuor n'avait atteint ces hauteurs. Voici que le pays devenait à nouveau plus accidenté et plus pierreux à mesure que l'on se rapprochait des collines. Et bientôt Tuor sentit le sol s'élever sous ses pas, et la rivière se coula dans un lit fourchu. Mais tandis qu'approchait le terne crépuscule, au 3e jour de marche, Tuor se trouva devant une paroi rocheuse. Il y avait là une brèche, telle une grande arche, et la rivière s'y engouffra et disparut. Et Tuor fut consterné et dit « Mon espoir m'a donc trompé. Le signe dans les collines m'a conduit seulement à une fin lugubre dans le pays de mes ennemis. » Et l'amertume au cœur, il s'assit parmi les rochers sur la rive haute de la rivière et veilla toute la nuit durant, une froide nuit sans feu, car on était seulement au mois de Sulimé, et nul élan printanier n'avait encore atteint cette lointaine contrée du nord, et un vent aigre soufflait de l'est. Mais lors même que le soleil de ses pâles lueurs aurorales dessillait les lointaines brumes du Mithrim, Tuor entendit des voix, et tournant la tête, il vit avec surprise 2 elfes pataugeant dans les hauts fonds. Et comme il montait les degrés de pierre taillée dans la falaise, Tuor se mit debout et les héla. Aussitôt, ils tirèrent leurs épées étincelantes et se précipitèrent vers lui. Et Tuor aperçut alors que sous leurs pèlerines grises, ils avaient revêtu des cottes de maille. Et il en fut tout émerveillé, car l'éclat de leurs yeux les rendait plus splendides et plus terribles d'apparence qu'aucun elfe qui lui eût été donné de voir. Il se redressa de toute sa hauteur et les attendit. Mais quand ils virent qu'il ne dégainait aucune arme, mais se tenait là, seul, leur souhaitant la bienvenue dans la langue des elfes, ils remirent leur épée au fourreau et lui adressèrent paroles courtoises. Et l'un dit « Nous sommes Gelmir et Arminas, des gens de Finarfin. N'es-tu pas l'un des Edain d'antan qui vivait sur ces terres avant les Nirnaeth? Et pour sûr, je te crois de la parenté de Hador et de Hurin, car l'or de ton chef te désigne pour tel. » Et Tuor répondit « Oui, je suis Tuor, fils de Uor, fils de Galdor, fils de Hador. Mais à présent, je désire quitter enfin cette terre où je suis un proscrit sans famille. »
Alors, dit Gelmir, si tu souhaites fuir et trouver les havres du sud, tes pas t'ont déjà conduit sur la bonne route.
C'est bien ce que je pensais, dit Tuor, car j'ai suivi une source jaillie soudainement jusqu'à son confluent avec cette rivière sournoise. Mais à présent je ne sais où aller, car elle a disparu dans les ténèbres.
Par les ténèbres, on peut atteindre la lumière, dit Gelmir.
Et pourtant on souhaite, tant qu'on le peut, marcher sous le soleil, répondit Tuor. mais puisque tu appartiens à ce peuple, dis-moi si tu le sais où se trouve la porte des Noldor, car je la cherche depuis longtemps, depuis qu'Anaël, mon père nourricier chez les elfes gris, m'en a parlé. »
Là-dessus, les elfes se prirent à rire et dirent « Ta quête s'achève, car nous-mêmes nous venons de franchir cette porte. La voilà qui se dresse devant toi. » Et ils désignèrent l'arche où s'engouffraient les eaux. « Allons, par les ténèbres tu parviendras à la lumière. Nous te mettrons sur ton chemin, mais nous ne pouvons guider tes pas plus loin, car on nous renvoie en mission urgente aux terres que nous avons fuies. »
« Mais ne crains rien, » dit Gelmir. « Tu portes écrit sur ton front un destin illustre, et il te conduira loin de ces terres, loin même de la terre du milieu, comme je le puis deviner. »
Or donc Tuor suivit les Noldor, et ils descendirent les degrés, et marchèrent dans l'eau froide jusqu'à ce qu'ils aient passé dans l'ombre au-delà de l'arche de pierre. Et Gelmir sortit une de ces lampes qui faisait la renommée des Noldor, car elles avaient été fabriquées jadis au Valinor, et ni le vent ni l'eau ne les pouvaient éteindre. Et décapuchonnées, elles propageaient une clarté limpide et bleutée, née d'une flamme emprisonnée dans un cristal blanc. Lors, à la lumière de cette lampe que Gelmir tenait au-dessus de sa tête, Tuor vit que la rivière dévalait maintenant une pente arasée et s'enfonçait dans un grand tunnel, mais que le long du lit qu'elle s'était taillé dans le rocher couraient des marches de pierre qui se poursuivaient pour s'engouffrer dans de profondes ténèbres au-delà de l'éclat de la lampe. Lorsqu'ils eurent atteint le pied des rapides, ils se trouvèrent sous un grand dôme rocheux où la rivière se ruait tumultueuse au bas d'un apic et la voûte renvoyait de toutes parts les échos de sa haute rumeur. Et filant sous une autre arche, elle s'enfonçait plus loin dans un second tunnel. Près des chutes, les Noldor s'arrêtèrent et firent leurs adieux à Tuor.
« À présent, il nous faut revenir en arrière et nous en aller de notre côté en toute célérité, » dit Gelmir, « car de périlleux événements se préparent en Beleriand. »
« L'heure est-elle donc venue où Turgon va paraître ?» dit Tuor.
Là-dessus, les elfes le considérèrent stupéfait.
« C'est là une chose qui concerne les Noldor plutôt que les fils des hommes, » dit Arminas. « Que sais-tu donc de Turgon ?»«
Bien peu, » répondit Tuor, « si ce n'est que mon père lui prêta main forte pour qu'il puisse fuir les Nirnaeth, et que sa citadelle secrète abrite l'espoir des Noldor. Cependant, bien que je ne sache pas pourquoi, son nom émeut toujours mon cœur et me vient aux lèvres. Et s'il en allait selon mon bon vouloir, plutôt que de fouler ce sombre chemin d'effroi, j'irai en quête de lui, à moins que cette route secrète soit, qui sait, le chemin de sa demeure.
Comment savoir ? Répondit l'elfe. Car si la demeure de Turgon est cachée au regard, cachés également sont les chemins qui y mènent. Je ne les connais point, bien que je les ai longtemps cherchés. Et les connaîtrai-je que je ne te les révélerai pas, ni à personne parmi les hommes.
Mais voilà que Gelmir prit la parole.
« Et cependant, j'ai entendu dire que ta maison a la faveur du Seigneur des Eaux. Et si ses mandements te conduisent auprès de Turgon, alors, assurément, tu parviendras jusqu'à lui de quelque côté que tu tournes tes pas. Suis maintenant la route où t'a conduit l'eau jaillie des collines, et ne crains rien. Tu ne marcheras pas longtemps dans les ténèbres. Adieu, et ne crois pas que notre rencontre soit chose de hasard, car l'habitant des profondeurs gouverne encore bien des choses sur ces terres. Anar Kaluva Tieliana. »
Là-dessus, les Noldor firent demi-tour et remontèrent l'escalier. Mais Tuor demeura immobile jusqu'à ce que la lumière de leur lampe ait disparu. Et il était seul dans une obscurité plus épaisse que la nuit, et les chutes grondaient alentour. Alors, s'armant de courage, il posa sa main gauche sur la paroi rocheuse et avança à tâtons, lentement d'abord, puis plus rapidement, à mesure qu'il s'habituait à l'obscurité et ne trouvait rien qui entravât sa marche. Et après un long moment, lui sembla-t-il, lorsqu'il fut là, mais peu enclin à faire halte dans le noir tunnel, il vit loin devant lui une lumière. Et se hâtant, il parvint à une faille étroite et haute et il suivit la rivière ronflante entre ses parois abruptes et jusqu'à un débouché donnant sur un crépuscule doré. Car il était parvenu à un ravin profondément encaissé qui s'ouvrait directement sur l'ouest. Et devant lui,
le soleil couchant qui déclinait dans un ciel clair illuminait le ravin, embrasant ses murs d'un feu jaune, et les eaux de la rivière brasillaient comme de l'or, déferlant et écumant sur le chaos des pierres étincelantes. En ce lieu profond, Tuor allait désormais plein d'espoir et de joie, et il découvrit un chemin au pied de la paroi sud où s'étirait une longue grève étroite. Et vint la nuit, et la rivière coulait impétueuse, invisible, sauf pour la lueur des lointaines étoiles qui miroitaient dans ses noires profondeurs. Et alors Tuor se reposa et dormit, car il n'éprouvait aucune peur aux abords de ces eaux où se jouait la puissance d'Ulmo. Avec la venue du jour, il se remit en chemin sans hâte. Le soleil se levait dans son dos et se couchait face à lui, et là où l'eau tourbillonnait parmi les rochers ou bouillonnait en soudaines cascades, des arcs-en-ciel se tissaient matin et soir d'une rive à l'autre. Et c'est pourquoi il nomma ce torrent Kirith Nimiak. Ainsi Tuor chemina lentement 3 jours durant, buvant de l'eau fraîche, mais ne désirant aucune nourriture, bien que le poisson foisonnât, scintillant comme de l'or et de l'argent, ou luisant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans les embruns. Et le 4e jour, le ravin alla s'évasant, et ses versants se firent moins hauts et moins abrupts. Mais la rivière coulait plus profonde et plus rapide, car depuis les hautes collines qui formaient maintenant ses rives, les eaux vives se déversaient dans Kirith Nimiak en 1000 cascades chatoyantes. Là, Tuor demeura longtemps assis, contemplant les remous et écoutant la rumeur perpétuelle des eaux, jusqu'à ce que vienne la nuit et que les étoiles brillent, froides et blanches, dans le sombre sillon de ciel au-dessus de sa tête. Et il éleva la voix et toucha les cordes de sa harpe, et couvrant le fracas des eaux, la mélodie de son chant et les douces vibrations de la harpe éveillèrent les échos assoupis de la roche, qui, démultipliés, se propagèrent parmi les collines enveloppées de nuit, et ainsi jusqu'à ce que tout le grand pays solitaire s'emplisse de musique sous les étoiles. Car bien qu'il n'en sût rien, Tuor avait atteint maintenant les montagnes de l'écho de Lamoth, non loin de l'estuaire du Drengist. C'est là qu'avait accosté Fëanor bien longtemps auparavant, et les voix de sa cohorte s'y étaient élevées en une puissante clameur au-dessus des rivages septentrionaux avant le premier lever de lune. Lors s'étonna Tuor, et il interrompit son chant, et lentement la musique alla s'évanouissant parmi les collines, et le silence se fit. Et du plus profond de ce silence, il perçut un cri étrange dans les airs au-dessus de lui, et il ne savait point ce qu'était la créature qui criait ainsi. Et il se dit, « C'est là une voix de fée. » Et puis, « Non, c'est un petit animal qui se lamente dans cette désolation. » Et l'entendant une nouvelle fois, « C'est là assurément le cri de quelque oiseau de nuit que je ne connais pas. » Et éploré lui parut ce cri. Et pourtant il souhaitait l'entendre encore et le suivre, car ce cri le hélait, il ne savait d'où. Le lendemain matin, il entendit la même voix au-dessus de sa tête et, levant les yeux, il vit 3 grands oiseaux blancs qui, à force d'ailes, remontaient le ravin contre le vent d'ouest et leurs ailes puissantes brillaient au soleil naissant. Et survolant Tuor, ils lancèrent une plainte sonore. Et c'est ainsi qu'il aperçut pour la première fois les grandes mouettes tant aimées des Teleri. Lors, Tuor se leva pour les suivre afin de mieux observer quelle direction elles prenaient et il grimpa sur la falaise à sa gauche et là se tint debout sur la crête et il sentit un grand vent d'ouest lui fouetter le visage. Et ses cheveux flottaient autour de sa tête et il buvait avidement de cet air vif et neuf, disant « Voilà qui fortifie le cœur comme de boire du vin frais ». Mais il ignorait que ce vent venait tout droit de la grande mer.